La particularité de la foi chrétienne est la grâce. Et la grâce. Dieu nous aime sans condition. Il nous fait grâce alors qu'on ne mérite pas pour être sauvé. Alors que dans d'autres religions, il faut faire des œuvres. Voilà, c'est ça la différence. Pourquoi je vous parle de ceci? Pour l'introduction, tout simplement, par le sujet d'aujourd'hui, c'est la grâce. Le péché et la grâce. On va essayer de voir un épisode du Père Abraham pour apercevoir le sujet d'aujourd'hui, le péché et la grâce. Souvent, lorsqu'on dit Abraham, on pense tout de suite l'homme qui a eu confiance en l'Éternel, et cet Éternel, notre Dieu, le lui imputa justice, à cause de cette confiance en lui. On le considère aussi comme le modèle de la foi, l'exemple à imiter. Pourtant, cet homme de foi si formidable, qui a tout abandonné pour suivre seulement après avoir entendu la parole de Dieu, a commis aussi des erreurs. Et c'est ce que nous voulons voir dans Genèse chapitre 20, que j'aimerais vous lire. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. J'en avais un petit peu parlé cette histoire pendant une présidence, assez courtement. Là, j'apporte pour le message. Je commence. Abraham, parti de là, pour la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Shur, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur ? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham, et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Jusqu'ici notre lecture. Vous connaissez bien cette histoire. Hein? On va essayer de voir un peu plus en détail cet épisode. Abraham était nomade, et aussi il était éleveur des bétails. Donc à chaque changement de saison, il changeait de lieu en lieu. Il faisait la transhumance complète avec toute la famille. En général, quand on dit la transhumance, c'est surtout le berger avec quelques personnes pour emmener les bétails d'un endroit à l'autre pour les nourrir. Mais là, c'était une sorte de transhumance, mais avec toute la tribu pour vivre à un moment donné. En général, ce changement de saison, la saison de pluie, durait du novembre jusqu'au février. Mais après donc février, il décide de partir à Guérar, une ville importante au sud de Gaza. Donc ça c'est la mer morte. Ils étaient à peu près à Beersheba. Ça c'est la Gaza. Donc là, il y avait la mer. Et puis, entre les deux, Gaza et Beersheba, ça c'est la mer morte, je vous rappelle, entre les deux, il y avait la mer morte, et puis Beersheba, et puis Gaza, et entre les deux, il y avait une certaine région qui s'appelait Gerar. C'était une grande ville, importante, et la distance entre Beersheba et Gerar faisait à peu près 70 kilomètres. Et dans cette région, donc, un certain Abimélec, qui signifie mon père est roi, régnait sur ce peuple. Donc, ce sont en fait des Philistins. Et donc, il arrive dans cette région et il se dit qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, comme ma femme est tellement belle, malgré son âge, j'ai peur de mourir si je dis que c'est ma femme. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Voilà, ce n'est pas la première fois que cette chose arrive, puisque lorsqu'il y a eu une famine dans le chapitre 12, Genèse chapitre 12, ils partent en Égypte et ils commettent les mêmes erreurs en Égypte. Il fait passer sa femme pour sa sœur. Et que cette femme a été prise par le pharaon et il a consommé ce mariage. Et puis il y a eu des plaies à pharaon et que Dieu quand même les a délivrés. Après avoir vécu cela, des années plus tard encore, à Gérar, il vit la même chose. Il n'avait pas retenu la leçon. Pourtant, dans Hébreu, il est dit quand même que c'est par la foi d'Abraham qui, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà, un homme de foi, un homme qui a obéi à Dieu, un homme qui écoutait la parole de Dieu, mais cependant, et puis d'ailleurs, il a changé d'endroit parce que, voilà, il y avait la famine, et puis, il y avait, c'est la période où il devait changer, et puis, lorsqu'il changeait, souvent, ils écoutaient la voix du Seigneur, donc ils se déplaçaient selon la volonté de Dieu. Cependant, sur place, il a pris peur et il commence à mentir. Tout ça à cause de la beauté de Sarah. En Égypte, Sarah avait à peu près 65 ans. Ici, à Gérar, c'est encore des années plus tard. Quand je dis 65 ans en Égypte, c'est minimum 65 ans. Hein. Ça peut être jusqu'à 70 ans. On ne sait pas à quel moment ils sont allés en Égypte. Et donc, c'est encore des années plus tard. Ça veut dire que moi, je pense que certains disent que c'est 20 ans après. Certains disent encore peut-être, on ne sait pas. Mais à cet âge, si c'est 20 ans après, c'est à peu près... 85 ans, quoi. Cependant, elle était tellement belle, le roi Gérar veut la prendre. Quand on voit cet épisode, on se dit que j'aurais jamais fait comme ça. Hein? Déjà, en Égypte, il a perdu sa femme, un autre. Imaginez-vous. Moi, j'ai difficile à imaginer perdre ma femme à quelqu'un d'autre et la reprendre après. Hein. Mais c'est ce qui s'est passé. Après un épisode comme ça, je pense qu'on comprend et on commet plus jamais la même erreur. Mais en fait, ils commettent la même erreur. Nous sommes aussi comme ça, en fait. C'est notre nature dans la pécheresse. Devant les difficultés, notre nature humaine oublie de faire confiance à Dieu et retombe dans les mêmes erreurs. Ici, ce qu'on remarque, c'est que le péché est répétitif, intentionnel. Après la première faute commise, il est peut-être plus facile de recommettre la même erreur. Et puis, cette faute qui est répétitive, intentionnelle, on voit que ça a été transmis aussi. Son fils Isaac, est-ce que vous vous rappelez? Son fils Isaac, commet la même erreur. Isaac va aussi au même endroit, à Guérar. Il rencontre aussi Abimélec et il ment pareillement. Cette fois-ci, il n'y avait rien, enfin, sa femme n'a pas été prise par Abimélec, mais Abimélec observe par la fenêtre que Isaac plaisante avec sa, enfin, avec Rebecca. Quand on dit plaisante, ça veut dire que ça peut aussi dire caresser. Hein. Il y avait ensuite Abimélec fit appeler Isaac et il dit certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Voilà. Ce péché répétitif, intentionnel, même à cause de cet mauvais exemple que les parents ont montré, le fils commet les mêmes erreurs aussi. Nous sommes peut-être de ceux qui montrent Abraham du doigt. Oui, Abraham a visiblement oublié la leçon d'Égypte, mais nous aussi, quand ça nous arrange, quand on est vraiment dans l'épreuve, quand on voit que vraiment ça, c'est un avantage pour nous, on n'hésite pas à commettre des péchés. On n'hésite pas à commettre des péchés, à détruire, à mentir, à voler. Et ne serait-ce qu'un demi-mensonge, puisque Sarah était sa demi-sœur. Donc quand il disait que c'est ma sœur, il y avait une part de vérité. Même s'il y avait une part de vérité, pour Dieu, c'est un péché. À cause d'Abraham et de sa supercherie minable, Abimélec prend Sarah, attire sur lui la condamnation de Dieu. Il va mourir, et non seulement lui, mais toute sa famille aussi, et plus aucune femme ne pouvait enfanter chez Abimélec. C'est là la conséquence du péché. Même si Abimélec n'avait rien commis de péché, directement ou intentionnellement, à cause de péché d'un autre, un innocent peut subir la conséquence du péché. En ce moment, dans les journaux, nous voyons, nous entendons beaucoup de nouvelles tristes, comme par exemple, dans ce mois-ci, on a entendu cette histoire de 5 novembre où Devin Patrick Kelly, un homme de 26 ans, a commis un massacre dans une église. Ça, vous avez entendu ça? Au Texas. Et c'est là où il a aussi tué 26 personnes, dont 8 enfants. Quand nous voyons cet événement, on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Et puis même, on n'est pas obligé d'aller aux États-Unis, même en France. On a longtemps parlé de cette affaire d'Alexia Daval, la joggeuse tuée, en Haute-Saône. Ce sont des choses incompréhensibles. Et certains athées diront à nous, les chrétiens, que vous qui dites que Dieu est souverain juste, si Dieu existe vraiment, et si Dieu est vraiment amour, alors pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi Dieu permet-il l'injustice? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? C'est vrai qu'on ne peut pas attribuer le mal à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec le mal. Mais à travers les événements passés avec Abraham, ce que nous comprenons, c'est que un péché d'une personne peut avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour lui, pour sa famille, mais aussi pour ceux qui les entourent. Même les innocents sont touchés par la conséquence du péché. Oui, le péché est mauvais pour soi, mais aussi pour toutes les personnes qui les entourent. Quand je vois cela, ce genre de choses, je ne peux que dire cette parole de Romains 7, 24. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Qui m'entraîne à la mort? Il y a le péché qui est présent dans la nature humaine. Notre nature est, oui, totalement dépravée d'après Calvin. On ne peut qu'être dans le désespoir, si nous comptons sur nous-mêmes seulement. Mais vous savez que Je vous avais dit dès le départ, le sujet d'aujourd'hui, c'est le péché, mais aussi la grâce. J'aimerais vous parler de cette grâce de Dieu. Et pour parler de la grâce de Dieu, le meilleur exemple qui existe, c'est le fils prodigue. Le fils prodigue. Comme beaucoup de jeunes rebelles et immatures, lorsque nous voyons cet épisode du fils prodigue, le fils cadet voulait être libre de vivre comme bon lui semble. Alors, il obtient d'abord son héritage. Vous savez, à l'époque, le cadet l'aîné obtenait le double portion d'héritage que le cadet. Donc, il avait quand même reçu un certain héritage, déjà, du vivant de son père, pour dilapider tout cela. Donc, il est allé dans le monde pour expérimenter ce qu'il voulait faire. Et il a dilapidé sa fortune en vivant dans la débauche. Après avoir tout perdu, après avoir perdu même des amis qui étaient tout autour de lui, il touche le fond du gouffre, et là il se dit, il meurt de faim. Et là il se dit que, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. C'est vrai qu'il a pris tout l'argent qui lui était réservé. Et puis, après avoir tout dilapidé, après avoir même abandonné toute sa famille, il veut revenir. Qu'est-ce que le monde, un parent dans le monde ferait? Vous savez, j'ai vu, en étant pasteur, beaucoup de choses, des conflits familiaux qui existent. Et ce genre de choses, ça détruirait complètement la famille. Et Dieu ici, ce Père, agit autrement. Au verset 20, c'est dans Luc 15, verset 20, ce cadet, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Quelle a été l'attitude du père? Le père, en fait, guettait tous les jours, attendait tous les jours le retour du fils. D'après la Bible, le père a vu en premier son fils. Puis il a couru vers lui. J'ai l'impression que lorsque le cadet avait fait un pas, le père avait fait 10 pas. Il a été ému de compassion. Il l'a pris dans ses bras. Il l'a embrassé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Là, il y a une certaine repentance. Non seulement il dit « j'ai péché contre toi », mais j'ai péché aussi contre Dieu. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs « apportez vite la plus belle robe, l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Là, on voit l'amour de Dieu à notre égard. Même si nous sommes très loin du Seigneur, Dieu reste patient. Dieu nous attend comme ce Père qui a attendu le Fils prodigue, avec un amour constant, avec un amour patient, avec un amour accueillant qui a fait fondre le cœur de Pierre de son fils cadet. Et je dirais même, c'est par la grâce du Père que le Fils a pu se repentir. C'est exactement pareil pour nous. Dieu nous recherche, nous cherche. Dieu nous donne des occasions de lui répondre. Et sachez qu'il ne nous forcera jamais. Ce n'est pas un Dieu qui nous force, comme on fait avec nos robots. Non, il attend. Il respecte notre libre arbitre. Comme le père de cette histoire, il attend patiemment que nous réalisions notre état de pécheur. À chaque fois, je pense que je vous ai parlé de mon passé, quand j'étais loin du Seigneur. Je n'étais pas toujours le pasteur. J'ai vécu aussi dans le monde. Et quand je vois comment Dieu m'a accueilli, a attendu, je ne peux que dire merci, et c'est pure grâce. Dieu a vraiment tout fait pour que je puisse revenir vers lui. De même, Dieu, lorsqu'il voit Abraham commettre ce genre de péché, il reste patient. Dans le cas d'Abraham, Dieu a intervenu de manière surnaturelle. Il apparaît dans le songe d'Abimélec, attend, parce qu'il n'avait pas encore consumé le mariage. Il intervient à temps pour protéger Sarah. On revient maintenant à la personnage de Sarah. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? D'être trop belle malgré son âge avancé, hein? Je vous avais dit, quand je serai au ciel, je vais vraiment voir comment elle était pour être aussi attirante par toutes les personnes. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? D'avoir obéi à son mari qui lui a justement demandé de mentir. Je pense vraiment que Dieu a eu pitié d'elle pour cette deuxième fois. Il veut la protéger. Donc il apparaît dans le songe d'Abimélec. Ça, j'appelle ça la grâce. La grâce de Dieu. J'aimerais vous lire dans Genèse 17-18. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes. Elles purent enfanter car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Voilà comment Dieu a intervenu pour remettre de l'ordre dans cette mascarade. La prière d'Abraham a apporté la bénédiction sur la famille d'Abimélec, car Dieu bénit même au travers de celui qui a commis des erreurs. Cette grâce-là, c'est quelque chose qui est inexplicable. Certes, on pourrait dire qu'Abraham avait échoué, avait commis des erreurs, avait commis une faute, il était dans le péché, mais Dieu ne l'avait jamais abandonné. Et il lui fait comprendre ceci. Tu es prophète. C'est vrai, certes, tu m'as déçu, mais je ne t'abandonne pas. C'est ce qu'il dit ce matin à chacun d'entre nous. Il ne nous abandonne pas. Il espère en nous. Ensuite, quand il le reprend, il lui demande de prier pour la famille d'Abimélec pour que les maux disparaissent. Et Dieu répond. En voyant cet épisode où la famille d'Abimélec est guérie, est bénie, on voit qu'il y a une certaine ironie parce que la prière faite par Abraham apporte la fertilité à cette famille, alors que lui-même, Abraham, attend toujours sa bénédiction, sa promesse, un enfant, hein, puisqu'il sera voilà, le père de toute une multitude de générations, de personne, mais là, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Certes, à Ismaël, mais voilà. Ce n'était pas un enfant que Dieu voulait. Il n'avait pas un enfant de Sarah. Il prie pour les autres et les choses se réalisent, alors que pour lui-même, ça ne se réalise pas. C'est de l'ironie de Dieu. Il se peut que nous soyons aussi une bénédiction pour les autres, alors que nous-mêmes, nous attendons depuis des années cette même bénédiction. Ça peut arriver. Quelle doit être alors notre attitude? Est-ce qu'on doit se plaindre en murmurant ainsi, « Seigneur, pourquoi tu fais ça? Hein, pourquoi tu réponds à ma prière pour les autres et pas pour moi ?» Hein? Non, il a resté patient quand même, jusqu'à ce que le Seigneur réponde. J'aimerais conclure. La grâce de Dieu, si on résume, on pourrait dire ainsi, la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. On a vu à travers l'épisode d'Abraham que le caractère du péché est répétitif, intentionnel, parfois aussi inintentionnel, avec beaucoup de conséquences désastreuses, non seulement à soi-même, mais aussi aux autres. Nous souffrons à cause des péchés. Et c'est vrai que si nous regardons notre nature déchue, on ne peut que de dire « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Mais voici, Jésus a porté tous nos fardeaux. Il est mort à notre place et ressuscité pour nous, pour que nous puissions être libres de cet esclavage du péché que nous avons vu ce matin. Et même si en ce moment vous vous sentez faible physiquement, moralement, spirituellement, et même parfois loin de Dieu, demandons la grâce de Dieu. Demandons cette grâce qui pardonne. Demandons cette grâce qui nous fortifie. Demandons aussi cette grâce qui nous aime. Et c'est ainsi que nous pouvons marcher selon, non pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. J'aimerais aussi pour vous rappeler que cette grâce qui est accordée gratuitement à nous, il ne faut pas non plus trop utiliser comme bon nous semble. Vous savez, à la dernière prédication de Patrice Alessandro, vous vous rappelez cet épisode où on fait venir Dieu à ma situation alors que on devrait justement aller dans le camp de Dieu. Ça s'appelle la grâce à bon marché. Justification du péché sans que le pécheur soit fasse demi-tour. Ça, c'est la grâce à bon marché. La prédication du pardon sans repentance, ça, c'est la grâce à bon marché. Le baptême sans discipline d'église, ça, c'est la grâce à bon marché. La Sainte Cène que nous venons de faire tout à l'heure, sans confession de péché, ça c'est la grâce à bon marché. La grâce qui coûte, c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans l'obéissance à Jésus, en ayant vraiment un contact direct, personnel avec le Seigneur. Et la grâce qui coûte, c'est est-ce que Dieu seul me suffit? C'est ça en fait, par rapport à toute autre chose. La foi sans l'obéissance, sans les œuvres, est une foi morte, c'est vrai. Mais en tout cas, rappelons ceci, cette grâce représente, cette grâce qu'on peut résumer la bonté, l'amour et la miséricorde de Dieu, est toujours là, mais vraiment, soyons prêts à recevoir cette grâce qui nous est accordée abondamment. Amen. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, à travers l'histoire, l'épisode d'Abraham, nous te confessons que nous avons aussi des défauts. Même parfois, nous sommes très loin de toi. Mais merci, Seigneur, parce que tu restes patient. Parfois aussi, ce matin, nous avons vu aussi qu'à travers notre péché, cela peut apporter une conséquence désastreuse à moi, mais aussi aux autres. Que tu puisses vraiment toucher nos cœurs pour nous transformer, pour pouvoir à ton écoute, pour que cette grâce de Dieu immense puisse nous toucher et nous transformer. Seigneur, que nous puissions vraiment être dans la patience aussi, dans les épreuves, pour pouvoir expérimenter cette grâce immense. Merci Seigneur parce que malgré nos fautes, tu restes patient. Comme ce Père qui a attendu le Fils prodigue. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus. Amen.